boîte noire.
La scène prête à confusion. Imaginez dans l'un des salons de l'hôtel Dorchester à Londres, l'équivalent du George V à Paris. Imaginez donc, dans un salon tranquille, une trentaine d'hommes et de femmes, d'un certain âge, réunis autour de quatre grands cierges noirs, d'un crâne visiblement humain et d'un grand type en toge rouge. À l'appel de son nom, un homme s'avance. Il dira plus tard qu'il tremblait intérieurement. Le grand type en rouge lui demande alors d'une voix puissante « Promettez-vous que vos détectives travailleront de façon correcte et sincère sur les crimes qui leur seront présentés. Promettez-vous qu'ils enquêteront selon le bon sens, sans jamais avoir recours ni utiliser la révélation divine, l'intuition féminine, le charabia, les magouilles, les coïncidences ou les catastrophes naturelles. » « Oui, je le jure, » répond alors David Stuart Davis, spécialiste de Sherlock Holmes, auteur de Polar et tout nouveau membre du Detection Club. Car il n'y avait rien de satanique dans cette réunion de septembre 2016 au Dorchester Hotel. Désolé. Depuis 1928, année de sa création, le Detection Club, le club des détectives, accueille ainsi chaque nouvel auteur de romans policiers qui rejoint ses rangs. Agatha Christie, Chesterton, John le Carré, Dorothy L. Sayers, ils sont une centaine à avoir ainsi prêté serment. Un serment qui fixe les règles de ce que l'on appelle le roman à énigmes. Le grand type en rouge, il s'agit du président, Martin Edward, continue ainsi. Jurez-vous de ne jamais cacher au lecteur un indice essentiel à l'enquête. Je le jure, dit le nouveau membre. Promettez-vous de n'utiliser qu'avec modération les gangs, les conspirations, les rayons de la mort, les fantômes, l'hypnotisme, les passages secrets, les chinois, etc. Je le jure. Ce dernier paragraphe a été rajouté dans les années 60, vous l'avez compris. Pourquoi les chinois ? Mystère. Mais sous l'humour se cache un engagement très sérieux des membres du Detection Club. Tous misent sur le rationnel. Et même lorsqu'ils imaginent ces fameux meurtres dans une pièce close, ces meurtres qui, en gros, n'ont pas pu avoir lieu, eh bien, le détective doit apporter une réponse matérielle, rationnelle, et l'auteur ne peut pas s'en tirer avec une pirouette, deux cacahuètes et un extraterrestre. Pour résumer, au Detection Club, le fantastique, c'est l'absence de fantastique.
Boîte noire.
Avec Melchior Testu et Viviane Lee.
Et s'ils trahissent leur serment, voici les derniers mots du président en forme de menace. Chers nouveaux membres du Detection Club, si vous échouez à tenir vos promesses, alors que les autres écrivains anticipent vos intrigues, que vos éditeurs revoient votre contrat à la baisse, que les anonymes vous poursuivent en diffamation, que les pages de vos livres soient remplies de coquilles et que vos ventes diminuent inexorablement, amen. Cette visite dans les coulisses du club des détectives pour vous rappeler le principe totalement opposé de boîte noire. Vous allez l'entendre grâce à la voix de notre très chère Viviane. Lorsqu'un auditeur nous fait parvenir l'incroyable histoire qu'il a vécue, ou seulement croisée, boîte noire laisse toutes les portes ouvertes. Le fantastique existe. Mais comme promis, place à l'histoire de cette semaine, Viviane nous emmène dans le terroir champenois et prête sa voix énigmatique à Christine, aide à domicile, qui a récemment ouvert une porte vers l'étrange.
Bonjour. Je vous écris depuis Châlons en Champagne, dans la Marne. Je le précise parce que vous vous rendrez compte que c'est un détail important. Sinon, je m'appelle Christine et jusqu'à la semaine dernière, j'étais en colère. Cela faisait 7 ans que je ruminais cette colère. Une colère rentrée, sourde. Une de ces colères qui vous fait prendre un abonnement chez le kiné ou chez le psy quand vous en avez encore les moyens. Tout a commencé le jour où j'ai compris que j'avais dépassé la date de péremption. 50 ans. bonne pour la casse, malgré mes diplômes et mon super pédigré professionnel. Trop qualifiée ou pas assez pour devenir hôtesse, vendeuse, serveuse, caissière. Tous ces postes qui, de toute façon, ne consomment que de la chair fraîche. Alors, fin de partie, fin de droit. C'est comme ça que je me suis retrouvée un matin dans une salle, en compagnie d'une douzaine d'autres femmes, après avoir signé pour une formation d'auxiliaire de vie. J'aimerais connaître le nom de l'imbécile ou du cynique qui, un jour, a proposé de résorber dans le même temps les problèmes du chômage et ceux de la dépendance. Qui, un jour, a eu l'idée absurde, cruelle, de confier le sort des personnes âgées à un bataillon de demandeurs d'emploi plus esquintés les uns que les autres. D'autant que côté reconnaissance et salaire, c'est la misère. Parmi les filles présentes ce matin-là, certaines bâillaient, s'ennuyaient, d'autres blêmissaient à l'idée d'avoir à toucher des corps inconnus en pleine déroute. Il y avait celles qui rigolaient, qui disaient « pas de problème ». Elles avaient l'air d'avoir vécu entourées de vieux toute leur vie. Moi, je me répétais « qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ?» Apprendre à lever, laver, habiller, changer ou nourrir quelqu'un relevait pour moi du sacerdoce ou, dans mon cas, de la punition, du purgatoire. Mais il a fallu que je fasse avec, pas le choix. Heureusement, j'ai de l'humour, ça aide. Et puis, j'ai eu de la chance. Hormis pendant mes stages, je ne suis pas restée travailler en EHPAD. Dénomination moderne de la maison de retraite. Établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Là, c'est rude. Autant pour les patients que pour les soignants. On nous avait vendu un mirage, prendre soin de nos aînés, en oubliant de nous préciser que nous n'aurions jamais le temps de le faire. Manque de personnel oblige, il fallait courir d'une chambre à l'autre, faire des choses pour lesquelles nous n'avions pas été formés. Et que ça saute, les toilettes, les repas, les couchers, tout à l'économie. Et tant pis si la dame du 4 sonne en vain pour aller aux toilettes. Demain, on lui mettra une couche, ça fera l'affaire. Tant pis si celle du 22 joue avec son bœuf bourguignon mouliné sans y toucher, elle mangera mieux ce soir. Tant pis pour le monsieur du 11 qui vous avait demandé de l'accompagner dans le jardin, il n'aura qu'à regarder la télé. Tant pis si son copain du 13 serait dit et aimerait bien vous prendre le gant quand vous lui lavez le derrière. Pas le temps pour la pudeur. C'est pour son bien. Il sentira meilleur. Ah oui, cette odeur. Parfois, elle revient me chatouiller les narines, simplement parce que je repense à tous ces endroits où il a fallu que j'aille. Mais j'ai eu de la chance. J'en suis sortie. J'ai fait mon trou dans une résidence pour personnes âgées, la version un peu chic du foyer logement. C'est une résidence privée, gérée par une association. Ce qui signifie que tant que l'entourage tient, tant qu'il y a quelqu'un pour s'occuper de ces personnes, on ne les expédie pas autoritairement en EHPAD. Jusqu'au bout, précise un peu crûment la plaquette publicitaire de l'établissement. Ce n'est pas la résidence qui m'emploie, mais des particuliers. La première qui m'a fait confiance, c'était une veuve, Madame Poulard, Germaine, de son petit nom. Elle avait passé une annonce dans le journal. Je me suis occupée d'elle pendant 3 ans. Avec elle, j'ai beaucoup appris sur la vieillesse et sur moi-même. Ma colère était toujours là, surtout à l'heure des infos, mais l'impression d'avoir été reléguée socialement en fond de classement a fini par s'atténuer au fur et à mesure. Ménage, courses, toilettes, repas, je fais un peu de tout, et souvent jusqu'au bout, moi aussi. Week-end et jours fériés compris. Actuellement, sans compter M. Le Gall, dont je vais vous parler, je m'occupe de 4 autres personnes.
people on streets.
Quand j'ai fait la connaissance des légales, il y avait encore madame. C'est elle qui m'avait contactée. Elle était un peu snob, madame Legal. La première fois, elle avait essayé de m'en mettre plein la vue avec ses relations, ses voyages, son train de vie, ses petits-enfants, tous formidables, que je n'ai jamais vus d'ailleurs. Sauf que, désormais, elle avait besoin de quelqu'un pour se lever, se laver, s'habiller, aller de son lit au fauteuil, etc., etc. Pas facile à digérer, je le sais. Nous avons tout de même fini par nous entendre, elle et moi. Son mari, lui, était en bonne santé. Il ne disait pas grand-chose, poussait le fauteuil de sa femme jusqu'au restaurant, dans le parc, et sinon, il lisait. Madame Le Gall est morte dans son sommeil il y a 8 mois, et j'ai eu du chagrin, comme à chaque fois.
Il court beaucoup, Gaël, attention, parce qu'au début du 5e, c'est lui qui avait la maîtrise du jeu, il est en train de prendre sa main, complètement si, ça y est, il est en route, confirmation, on a merci maintenant.
Monsieur Le Gall a souhaité que je continue à m'occuper de l'appartement. 2 heures auraient suffi, et encore, pas tous les jours. Mais à 92 ans, il ne voulait pas rester seul. Ne souhaitait plus manger au restaurant. N'avait plus le goût pour ses promenades dans le parc. Si je l'avais voulu, j'aurais pu travailler à temps plein chez lui. Son fils me l'a proposé d'ailleurs. J'ai refusé, ne voulant pas laisser tomber les autres. Eux aussi vivaient seuls, pour la plupart. Eux aussi redoutaient d'affronter le tic-tac de la pendule dans le salon bien vide, ou les heures entre chien et loup. Eux aussi trouvaient des prétextes pour me retenir sur le pas de leur porte, pour une course qu'ils avaient oubliée, ou le potin du jour. J'ai donc continué à sauter d'un appartement à l'autre pour passer un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Le jour où M. Le Gall a regardé un vieux film de vacances qui se passait en Bretagne, j'ai appris qu'il était né près de Douarnenez, et que dans une première vie, il avait été dans la marine marchande. Il n'y avait pas Madame Le Gall sur les images. Juste des anses, des plages, des rochers, la mer, des petits bateaux de pêche. Une ferme où une vieille femme en blouse lançait du grain à des poulets tandis qu'un chien, un bâtard, tirait sur sa chaîne en aboyant, silencieusement. Image muette, tournée en noir et blanc au début des années 50 et recopiée sur un DVD. Ce jour-là, j'ai appris aussi que M. Le Gall s'appelait Judy Cael, que sa première femme, Yvonne, était morte en mettant son fils au monde, qu'il avait une sœur à Paris et que c'est celle-ci qui lui avait présenté Éléonore, sa deuxième épouse. Éléonore détestait la mer, la campagne, les bouseux. Elle n'était venue qu'une seule fois en Bretagne, et encore à reculons. Et comme M. Le Gall était très amoureux, très attentionné, il avait tourné le dos à la mer et s'était enfoncé dans ses terres champenoises, berceau familial d'Éléonore. Jamais il n'avait été aussi bavard. Ça ne vous dirait pas d'y retourner maintenant ? Le regard toujours fixé sur le téléviseur, il m'a répondu qu'il était trop vieux. C'était il y a 2 mois, et je suis convaincue que c'est ce jour-là que les choses ont commencé. Allez, arrivée du bateau, top départ pour le bonhomme sur son vélo, voilà. Petite danse devant le calvaire, aboiement du chien, allez. Entrée en scène de la mère, le chien va gueuler, voilà, il gueule, la mère dit un truc. Qu'est-ce qu'elle dit ? J'arrive toujours pas à lire sur ses lèvres. À force de voir et de revoir ce film pendant que je faisais les vitres, les poussières ou que je repassais, il m'était rentré dans le crâne. Monsieur Le Gall, lui, c'était tous les jours maintenant qu'il regardait ce DVD. Et quand il en avait assez, il se replongeait dans des livres. Douarnenez, le canton de Douarnenez. Douarnenez il y a 100 ans, le peuple de l'abbé. Douarnenez, histoire d'une ville. Autrefois, Douarnenez. À 2 ou 3 reprises, des gens avec qui sa femme et lui avaient l'habitude de jouer aux cartes sont venus l'inviter. Promenade, apéritif, belote, à chaque fois et très courtoisement, il a décliné, prétextant qu'il était occupé. Et n'allez pas croire que ce film de vacances, qui me sortait maintenant par les yeux, le rendait heureux. Plus les jours passaient, plus M. Le Gall était abattu, silencieux. Comme si, au chagrin du deuil, s'était ajouté celui du pays perdu. Fallait-il en parler à son fils ? J'ai hésité à le faire. Après tout, à chaque fois que celui-ci téléphonait, M. Le Gall lui jouait la comédie du bonheur, et l'autre, au bout du fil, semblait y croire, puisqu'il n'est pas revenu avant ce qui s'est produit, il y a une dizaine de jours. Paris n'est pourtant pas si loin. M'aurait-il cru, d'ailleurs ? Car j'imagine que le judicaël se serait bien gardé d'allumer la télé pendant sa visite. En plus, M. Le Gall n'avait pas maigri. Il avait toujours bon appétit et continuait à prendre soin de lui. Il ne se promenait pas en slip dans les couloirs de la résidence en demandant son chemin, comme c'était arrivé au monsieur d'à côté.
Tu la voyais pas comme ça ta vie, pas d'attaché caisse quand t'étais petit, ton corps enfermé, costume crétin, t'imaginais pas, je sais bien, moi aussi j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie, tu la voyais pas comme ça l'histoire. Toi t'étais tempête et rocher noir, mais qui t'a cassé ta boule de cristal, cassé tes envies rendues banales, tes moches en moustache, en laide sandales, tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça frérot, doucement ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais, et ce rêve là on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau,
c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau.
Tambour binaire et premier sabot,
c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau.
Dansant Quimper ou Landerneau,
c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau.
Soufflant tonnerre dans du roseau,
c'est pas toi qui es.
Dans le bagage de l'ambiway.
Ce matin-là, je suis arrivée avec une carte routière, des dépliants touristiques, mon ordi, et j'ai tout posé sur la table de la salle à manger. Lui, déjà devant son DVD, me tournait le dos. Je me suis attablée et j'ai dit « Vous connaissez Kergoulinette ?» On dit Kergoulinet. Goulinet, Goulinette, je suis pas bretonne, moi. C'est vous le spécialiste. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble, Kergoulinette, nénette. Vous allez prendre des congés ? Ouais. En octobre, ça doit être bien la Bretagne, non ? Pourriez m'accompagner, c'est pas si loin. Madame Borne, elle, elle est bien allée en Chine, alors ce ne sont pas 770 kilomètres qui vont vous achever, hein ? On prend mon carrosse, Paris, Chartres. On s'arrête au Mans, j'ai les copains là-bas, ils nous hébergeront. Ah ça non, pas question, on ira à l'hôtel. Et puis votre carrosse, comme vous l'appelez, s'il nous transporte jusqu'à Reims, nous aurons déjà de la chance. Il a éteint le téléviseur et nous avons passé la matinée à affiner notre itinéraire. Choisir des hôtels, sélectionner les endroits où il souhaitait aller. Les jours suivants, son enthousiasme n'est pas retombé. Il regardait toujours le DVD, mais il me commentait les images. C'est comme ça que j'ai su que sa mère s'appelait Anaïgue, ou que petit, il allait à la pêche à pied avec ses oncles, qu'ici, sur ce rocher, il avait trouvé une étoile de mer, que là, il avait l'habitude de ramasser des bigorneaux. Il n'avait pas l'air de bien s'entendre avec son père. Il m'a raconté comment il s'était sauvé de la ferme familiale, à 14 ans, et comment il avait intégré l'école des mousses à Brest, en trichant sur son âge. Comment, après la guerre, il avait intégré la marine marchande. Et combien il lui avait été difficile, la nuit, de ne plus sentir l'océan, sa houle et ses embruns, une fois qu'il était venu vivre dans la Marne. Jour J, moins 3. C'était un vendredi. En principe, nous aurions dû prendre la route le lundi suivant. Dans la soirée, le vent s'est mis à souffler très fort. Il venait de l'ouest, et avec lui, des nuages chargés à bloc. Il a plu toute la nuit. Je me suis levée le lendemain à 6 heures, comme d'habitude. Douche, petit-déj, et direction la résidence. En entrant, j'ai senti le courant d'air. La porte-fenêtre du salon était ouverte. La télé, encore allumée, et ce bon dieu de film, toujours à passer en boucle. Il avait plu sur la bibliothèque, la desserte, le canapé. La moquette était mouillée. C'est en m'approchant que j'ai découvert Monsieur Le Gall, couché sur le côté. Il avait dû tomber pendant la nuit, peut-être faire une attaque, avoir un AVC. Sur le coup, j'ai cru qu'il était mort. Je me suis agenouillée et je l'ai retourné, délicatement. Sa jambe et son bras droit pendaient, tout comme la moitié de sa bouche. Il était glacé. Je lui ai placé un coussin sous la tête et je suis allée chercher une couverture, tout en composant le 15. Puis je suis retournée à ses côtés pour le rassurer. Je lui ai posé plusieurs questions, mais il ne m'a pas répondu. Et ce qui m'a surpris, c'est son expression. Il ne semblait pas perdu ou effrayé, comme le sont d'habitude les victimes de ces attaques. Au contraire, il était très calme et me fixait d'un air radieux. Oui, radieux. À cette minute-là, il rayonnait malgré la grimace de sa bouche. J'ai répondu à son sourire et je lui ai répété que ce n'était rien, que tout allait bien se passer. Et puis je lui ai pris la main droite, cette main qui aurait dû être molle, relâchée. Or, cette main était fermée et entre ses doigts, il y avait quelque chose. J'ai réussi à déplier son pouce et son index et j'ai vu ce qu'il tenait. C'était une étoile de mer. Et cette étoile de mer était encore vivante. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai senti l'odeur, cette odeur puissante d'iode qui flotte d'habitude sur les étals des poissonniers ou sur les grèves, les plages. Ce n'est qu'alors que j'ai remarqué les grains de sable collés sur ses bas de pantalon mouillés. Du sable, il y en avait aussi des traces ici et là, sur la moquette. Elle était humide. J'y ai passé la main et je ne sais pas pourquoi j'y ai goûté. C'était de l'eau salée. À l'arrivée des ambulanciers, j'ai mis l'étoile de mer dans ma poche. Et comme Monsieur Le Gall, elle n'a pas survécu longtemps. Elle est aujourd'hui posée sur l'étagère, dans ma chambre. Depuis, curieusement, je ne sens plus cette colère qui me grignotait de l'intérieur. Évidemment, je ne comprends pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais peut-être aurez-vous une idée. Merci pour l'attention que vous porterez à mon témoignage. Cordialement, Christine.
Boîte noire.
Avec Melchior Testu et Viviane Mee.
Des idées, chère Christine, des pistes de réflexion, c'est ce que nous semons dans Boîte noire semaine après semaine. Alors, question. Comment de l'eau salée, de l'eau de mer, du sable et, plus étrange encore, cette étoile de mer vivante ont-ils pu arriver dans un appartement situé à 750 km de l'Atlantique? 765 km exactement séparent Châlons-en-Champagne de Douarnenez, dans le Finistère. La vérité, seul ce vieil homme la connaissait et malheureusement il l'a emporté avec lui. Aussi, une fois encore, nous allons jeter nos filets dans le vaste océan des mystères pour voir ce que nous y pêcherons.
Vous êtes bien lyrique aujourd'hui.
Oui, c'est l'air de la mer, l'iode, c'est vivifiant, Viviane. Alors, sur quelle piste êtes-vous parti avec nos amis du réseau?
Si je vous dis Spock, Capitaine Kirk, Enterprise.
Je vous réponds Star Trek et ses scènes de téléportation.
Le mot téléportation a été créé en 1934 par un écrivain américain, Charles Fort. Un homme qui avait recensé, collecté et noté sur des dizaines de milliers de fiches toutes sortes de manifestations bizarres. Puits d'animaux, poltergeists, combustion spontanée, enlèvement d'êtres humains par des extraterrestres.
Presque un collègue, quoi.
Mais si Charles Fort a été le premier à créer ce mot « téléportation » pour désigner le fait qu'un corps peut se déplacer d'un lieu à un autre, instantanément, il semble ne pas l'avoir expérimenté lui-même, contrairement, paraît-il, à un certain Gilles Pérez.
Alors, avec cette histoire, nous faisons un bond dans le temps. Direction Mexico, en 1593.
Imaginez la plus grande place de Mexico. C'est l'heure de la relève de la garde. Soudain, un soldat apparaît. Il a l'air confus, désorienté.
Et on le serait à moins, puisqu'il vient de faire un saut de presque 15 000 km. C'est en tout cas ce qu'il affirme.
Il porte d'ailleurs l'uniforme des gardes du gouverneur des Philippines, de l'autre côté du Pacifique.
Et annonce que son gouverneur, Don Gomez Pérez das Malinas, a été assassiné à Manille, aux Philippines, la nuit précédente, par des pirates chinois.
Évidemment, avec une histoire pareille, en pleine période d'Inquisition, ça tourne mal pour ce soldat, accusé d'être un suppôt du diable, il est emprisonné.
Jusqu'à ce que, 2 mois plus tard, un navire de guerre espagnol arrive à Mexico et que son capitaine confirme la nouvelle de l'assassinat du gouverneur de Manille.
La version de cette histoire, de cette légende, écrite dans les années 1900, précise que Gil Pérez, le soldat téléporté, aurait même été reconnu par des passagers de ce bateau.
Revenons à aujourd'hui. Quelle autre piste avez-vous explorée ?
Alors, selon certains courants mystiques, un être humain est un peu comme une matrioshka.
Une poupée russe.
Oui. Nous serions composés de 3 couches. Première couche, notre corps physique. Deuxième couche, notre corps subtil. Et 3e couche, l'aura. Le corps subtil envelopperait le corps physique. Or, ce corps subtil, dont très peu parmi nous ont conscience, aurait de nombreux pouvoirs. Passer à travers les murs, entendre ce que d'autres n'entendent pas, voir l'invisible ou le futur.
Et se téléporter.
Exactement. Nous pouvons donc supposer que c'est ce qui est arrivé à Monsieur Le Gall.
Mais il n'avait pourtant rien d'un mystique, d'après Christine.
Oui, mais il était dans un état émotionnel un peu spécial. Souvenez-vous, il a perdu sa femme. Il regarde sans arrêt des images qui le renvoient vers l'endroit où il est né.
Vous pensez à une sorte de transe ?
Plutôt de l'hypersensibilité, un état où la réalité pourrait devenir poreuse, où les lois classiques de la physique se tordent. Il est bien possible que cette nuit-là, M. Le Gall ait effectivement été faire un petit tour du côté de Douarnenez. Christine, dans son mail, nous a précisé le temps qu'il faisait.
Oui, gros vent d'ouest et bonne pluie, une météo plutôt océanique, très bretonne en somme.
De quoi favoriser le phénomène. Le corps physique de M. Le Gall lâche les rênes, permettant à son corps subtil de l'emmener là où il désire aller le plus au monde.
Boîte noire.
Avec Melchior Testu et Viviane Lee.
Une confidence pour finir. Sur le dossier de l'émission de cette semaine, notre très chère Viviane a écrit en grosses lettres bleu marine « Vague à l'âme ». Plus qu'un joli titre pour l'incroyable histoire de Monsieur Le Gall. « Vague à l'âme » m'a soudain fait penser à la rose pourpre du Caire. Ce film de Woody Allen, où Mia Farrow joue une serveuse triste dans la vie qui se console au cinéma, revoyant plusieurs fois de suite le même film. Jusqu'à ce que l'acteur principal sorte de la toile. Il sort de l'écran et l'emmène avec lui. Alors, si au lieu de s'être téléporté en Bretagne, dans son Douarnenez natal, M. Le Gall avait vu s'ouvrir l'écran. Si la vague visionnée si souvent avait bel et bien déferlé dans son salon, apportant cette étoile de mer filmée voilà si longtemps. Merci à notre très chère Viviane d'avoir prêté sa voix et son savoir-faire de couturière sonore, à Christine de Chalon en Champagne, à 765 km donc de Douarnenez. Merci à nos amis du réseau de nous avoir éclairés sur la téléportation, son histoire et, je l'espère, sa prochaine réalité qui limitera les embouteillages et la pollution. Merci à vous tous de nous écouter et de nous écrire, si nombreux chaque semaine, par mail ou par voie postale. N'hésitez pas, Boîte Noire attend vos récits au bord du réel, même si nous ne pouvons pas tous les diffuser. Si l'espèce humaine est toujours de ce monde, Boîte Noire revient la semaine prochaine, dans cette dimension, ou dans une autre, qui sait ?
C'était Boîte Noire, une émission proposée et réalisée par Marie-Françoise Gaucher avec les voix de Melchior Testu et Viviane Lee. Aujourd'hui, vous avez pu écouter plusieurs extraits de The Game de Daniel Pemberton, The Queen et David Bowie, Under Pressure et Alain Souchon, Le Bagad de l'Anne Biway.